Bonjour Hervé.
Bonjour.
Première page de Libération ce matin, les manifestations massives en Allemagne contre l'extrême droite.
Historique, titre Libération, pas besoin de traduire. Près de 3 millions de personnes sont descendues dans les rues des villes allemandes ces dernières semaines. Entre 150 000 et 300 000 ce week-end encore autour du Reichstag à Berlin pour défendre la démocratie et dénoncer la montée de l'AfD, parti d'extrême droite fondé en 2013 et virtuellement la deuxième force politique du pays à un an des élections fédérales. Et dans l'ancienne Allemagne de l'Est, ce sont les plus grandes manifestations depuis la chute du mur en 1989, relève le correspondant de Libération en Allemagne. Courrier International rappelle que le mouvement a été déclenché par la révélation d'une réunion secrète durant laquelle des dirigeants de l'AfD ont évoqué un projet d'expulsion massive de demandeurs d'asile, de migrants en situation régulière et de citoyens non assimilés, entre guillemets.
Il faudra qu'on m'explique ce que c'est qu'un citoyen non assimilé.
On peut deviner quand même.
Chez les Allemands, en toile de fond de ces manifestations, un débat politique et juridique est en train de monter. Faut-il et peut-on interdire un parti politique qui dispose d'élus au Parlement?
Oui, c'est la sempiternelle question de l'attitude à tenir pour les démocrates face aux ennemis de la démocratie. On peut d'ailleurs lire sur le site de Courrier International un bon résumé des arguments pour et contre l'interdiction extrait de la presse allemande. Il y est souligné qu'à deux reprises, la Cour constitutionnelle allemande a refusé d'interdire un parti néo-nazi, le NPD, mais qu'elle vient de priver ce même parti de financement public. Libération explique qu'à l'origine, l'AfD, elle, autre parti, était un mouvement fondé sur le rejet de l'Union européenne pour des raisons avant tout économiques. Avec l'arrivée massive de réfugiés syriens en 2015, ses slogans se sont focalisés sur l'immigration et l'identité. Puis, le parti a milité contre les restrictions sanitaires pendant le Covid et contre les sanctions envers la Russie après l'invasion de l'Ukraine. L'AfD dispose aujourd'hui de 78 élus au Bundestag.
Un tout autre sujet de controverse chez nous, l'augmentation du prix du stationnement pour les SUV à Paris, dont une votation citoyenne dans la capitale a approuvé hier le principe.
Oui, c'est un de ces bons débats dont la France a le secret. Vous savez, c'est polémique où chacun a un avis, même sans vraiment connaître le sujet. C'est en tout cas un sujet qui fait plus parler qu'il ne fait voter. Courte majorité et faible mobilisation pour tripler le coût du stationnement des véhicules lourds, écrit ce matin Le Monde. 78 000 votants sur les 1 300 000 inscrits, précise Le Parisien, qui indique aussi qu'une fois définitivement validée, la mesure rapporterait 35 millions d'euros par an à la ville. L'enjeu de cette tarification, précise néanmoins l'adjoint au transport, c'est de donner un signal. On ne stigmatise personne. Ça méritait en effet d'être précisé. Dans l'opinion, Éric Le Boucher estime que, sous couvert d'écologie, c'est en réalité la taille des véhicules qui est en cause. Il voit donc dans l'offensive anti-SUV une attaque camouflée contre les riches qui, au bout du compte, fera, selon lui, grossir l'électorat de l'extrême droite. Ça peut aussi se discuter.
Le Parisien aujourd'hui en France consacre sa une à la question de l'empilement des normes qui est à l'origine de la fronde des agriculteurs avec ce titre « Trop ». C'est trop.
Oui, le journal pointe cette autre spécialité hexagonale qu'il qualifie d'embonpoint normatif, administratif et législatif virant à l'obésité. Outre les embarras que provoque l'intrication de tant de règles dans notre pays, un rapport sénatorial de 2023 a établi qu'elle coûte 60 milliards d'euros par an à l'économie nationale, ce n'est pas rien, sans compter l'impact sur les finances locales. 5 parlementaires préparent un rapport sur le sujet. Et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, promet un projet de loi de simplification destiné, je le cite, à faciliter la vie des entreprises. Et ce projet est attendu pour la fin du premier semestre.
Des années et des années qu'on nous promet ce genre de réforme. Le Parisien mentionne plusieurs exemples de règles particulièrement loufoques.
Des exemples qu'on croirait extraits de L'Os à moelle, le fameux journal du regretté Pierre Dac. Ainsi, les candidats au concours d'officier de la gendarmerie ne doivent pas présenter un coefficient de mastication inférieur à 30%, sachant que cet indice est calculé en attribuant des points à chaque dent du candidat. Autre exemple, le code du sport prévoit que tout équipement de football en salle accueillant des matchs de première et de deuxième division doit comporter 2 vestiaires d'au moins 8 mètres carrés pour les arbitres avec sièges et porte-manteaux. Je vous en donne un dernier, le code du travail interdit à un employeur de faire monter un jeune de 16 à 18 ans sur un escabeau de façon répétée, sans mesure de protection collective, sans plus de détails.
Ça veut dire qu'il faut mettre des matelas en bas de l'échelle.
Par exemple.
Ou un parachute.
Ça peut être une idée. La mesure est sans doute peu respectée par les saisonniers qu'on recrute pendant la période de cueillette des fruits, mais elle montre certainement l'intérêt d'une simplification à grande échelle, si j'ose dire.
Et quel est votre coefficient de mastication?
Je ne vous le dirai pas, c'est secret.
Est-ce une autre conséquence de l'excès de normes? Dans le Massif Central, un projet de mine de lithium suscite des résistances.
Les normes ne sont jamais que la traduction dans le droit de nos inquiétudes, pour ne pas dire de nos frilosités. C'est le Télégramme de Brest qui raconte cette histoire. À Échassières, dans l'Allier, le groupe minier Imerys voudrait exploiter un gisement exceptionnel de lithium situé sous une carrière qu'il exploite déjà. Projet structurant pour le département, dit la préfète au journal. 1000 emplois directs et indirects à la clé et la possibilité d'équiper des batteries pour 700 000 voitures électriques par an, c'est-à-dire un tiers de l'objectif fixé par le gouvernement. L'intérêt public du projet sera mis en débat au printemps et déjà, les oppositions s'élèvent. Les écologistes s'inquiètent de la pollution, de l'utilisation de l'eau pour la mine, de la préservation de la forêt voisine, etc. On veut cette mine pour équiper un nombre extravagant de SUV électriques. Mais est-ce cela qu'il faut faire pour respecter la planète? Interroge un dirigeant d'association écologiste dans le Télégramme. Peut-être pas. Les Chinois nous vendront des batteries sans se poser la question.
On termine avec une grande enquête du Figaro sur le crédit municipal à Paris, c'est-à-dire le Mont-de-Piété.
Institution fascinante et vénérable créée par Théophraste Renaudot sous Louis XIII pour prêter de l'argent aux nécessiteux contre un objet laissé en gage. Plus tard, c'est parce que le frère du roi Louis-Philippe avait prétendu avoir oublié sa montre chez sa tante plutôt que d'avouer qu'il l'avait mise au clou pour honorer une dette de jeu que le crédit municipal est aussi surnommé « ma tante ». On s'imagine un bric-à-brac monstre mais sans grande valeur, eh bien on se trompe. Le Figaro nous apprend que toutes les catégories sociales défilent au crédit municipal, les noms de Sarah Bernard et de Victor Hugo figurent dans ces registres et ces coffres abritent des toiles de Picasso, de Géricault ou de Warhol, révèle l'un de ses directeurs. L'encours moyen avoisine 1400 euros mais les prêts peuvent monter à des centaines de milliers d'euros par exemple pour des collectionneurs qui veulent sauter sur une occasion au plus vite. Si vous avez des SUV que vous ne savez pas où garer, eh bien c'est peut-être le moment de penser au crédit municipal.
Vous voulez dire qu'il faut mettre son SUV au clou.
Par exemple.
C'est ça, pour crever les pneus. Merci Hervé Gattegnaud. Tout de suite, on retrouve quelqu'un qui a un coefficient de mastication des concepts philosophiques et de l'actualité bien supérieur à la moyenne. Luc Ferry, notre esprit libre du lundi.